En ce joli vendredi du mois de mars 2016, je me trouve sur la commune de Saint-Martin-de-Carrières à la ressourcerie La Miraille. Je vais rencontrer Karine Hagg, la coordinatrice de la structure, et ensemble nous allons découvrir l'établissement ainsi que les personnes qui s'en occupent. Mais avant ça, faisons un petit point sur ce qu'est une ressourcerie, quelles sont ses missions, ses actions et les liens qu'elle tisse dans son environnement. Donc une ressourcerie est un centre de collecte, de valorisation et de vente d'objets par réemploi ou réutilisation. La ressourcerie se donne comme mission de sensibiliser le public à la réduction des déchets et à une manière autre de consommer. Ses principales actions se tournent vers les volets environnementaux, sociaux et économiques. Je vais laisser le soin à Karine Hagg de nous conter l'histoire de la naissance de La Miraille, c'est-à-dire depuis quand cette structure existe, comment l'idée est née, comment a-t-elle été concrétisée et quelles sont les personnes qui ont permis qu'elle voie le jour ici à Saint-Martin. Nous verrons aussi avec elle en détail le fonctionnement et l'organisation du travail ainsi que l'activité de vente. Peut-être aurons-nous la chance de parler avec des personnes salariées si elles sont disponibles, en savoir plus à propos de leur quotidien et en savoir plus sur ce qui doit être, à n'en pas douter, et avant tout, une aventure humaine. Donc voilà, donc là je me trouve en compagnie de Karine Hagg. Bonjour Karine.
Bonjour.
Donc vous êtes la coordinatrice de la structure La Miraille dans laquelle nous sommes, là sous un dôme vitré, en pleine lumière. En plus, comme je le disais en introduction, il fait une magnifique journée. On a un ciel bleu, il n'y a pas un nuage, rien. L'intérieur est très coloré. Avant d'entrer, on va peut-être refaire un petit point. Donc moi, je l'ai expliqué un peu en introduction, mais qu'est-ce qu'une ressourcerie, en fait ?
Du coup, juste pour préciser, juste une petite précision par rapport à votre présentation. Donc moi, je suis bien la coordinatrice du chantier d'insertion de la ressourcerie La Miraille. Okay. Chantier d'insertion qui est porté par une association Environnement et Solidarité. Donc c'est un chantier porté par une association. Ce n'est pas une structure indépendante à part entière. C'était juste pour, pour préciser.
C'est très bien.
Donc une ressourcerie, c'est une structure qui récupère des objets dont les gens ne veulent plus. On les récupère sous forme de dons. Et puis ensuite, on les remet en état. On les revalorise ou simplement, des fois, voilà, juste on les nettoie. Et puis, on les remet en vente à bas prix, de prix assez accessible, au sein du magasin, là où on est en ce moment.
Puis donc, l'idée, c'est d'éviter du gaspillage et de remettre dans le circuit des objets qui, pour certains, pourraient paraître obsolètes ou inutiles, devenus inutiles, et qui peuvent, malgré tout, rendre service à d'autres personnes. Et on renvoie ça dans le circuit.
Voilà, c'est exactement ça. Le principe, c'est de diminuer la quantité de déchets produits sur notre territoire et puis, en même temps, rendre service à des gens qui peuvent acheter des objets, du mobilier, de l'électroménager, à des prix assez accessibles. Après, la ressourcerie, elle peut être définie par un peu quatre piliers. Donc, il y a la collecte, aller chercher. Donc là, nous, on fait des collectes gratuites à domicile chez les particuliers sur tout le territoire. Ensuite, il y a la partie valorisation et la partie vente. Donc, c'est quand même la tenue d'un magasin, d'un commerce avec ses conditions. Et puis, la partie sensibilisation, où on fait aussi la sensibilisation au réemploi, à l'énergie, enfin différentes thématiques aussi dans ce domaine-là.
Comment est née la ressourcerie ? Ici, à La Miraille, comment ça s'est créé ?
Pour être assez bref sur l'historique, parce que ça peut être assez long, mais la structure que je présentais au départ, Environnement et Solidarité, qui est née sous un autre nom, existe depuis 93 ou 94. Elle travaillait beaucoup dans le domaine d'éducation au développement durable. Un premier chantier d'insertion a été créé, qui était valorisation des territoires en montagne, qui travaille sur tout ce qui est sentiers, espaces verts, entretien de différents sites en montagne. Et puis, au fur et à mesure de parcours de vie de cette structure, a émergé le besoin de créer des emplois vers un public féminin. D'accord. Et l'idée, c'est parce que du coup, le travail en montagne, malgré tout, c'était assez masculin. Donc là, l'idée, c'était de créer une structure qui pouvait offrir des emplois féminins, enfin un public féminin, et tout en alliant aussi ce côté voilà, des valeurs portées par l'association qui est de lier le social et l'environnement. L'environnement et solidarité. Mm-hmm. Donc le principe de la ressourcerie est parti un petit peu de ce constat-là, de créer des emplois féminins sur le territoire et des gens voilà, motivés par les valeurs de solidarité et d'environnement. Et une étude de faisabilité a été faite, une rencontre avec les communautés de communes qui souhaitaient que ce projet voit le jour sur le territoire. Donc ça a duré pas mal d'années. Et la ressourcerie a vu le jour en 2012, donc 4 ans à peu près.
J'ai 4 ans, la muraille ouvrait ses portes.
Voilà.
D'accord. Donc vous avez parlé d'insertion, vous êtes coordinatrice en chantier d'insertion. C'est quoi un chantier d'insertion et qu'est-ce que ça comprend comme objectif et quelle finalité pour que l'auditeur puisse cerner un peu la définition et donc l'objectif d'un chantier d'insertion.
Pour expliquer un petit peu ce que c'est un atelier chantier d'insertion, c'est un outil au service un peu de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, qui consiste à rendre possible l'insertion des gens par le travail. C'est finalement assez ancien, mais assez récent. Ça date que des années 70. C'était un outil mis en place pour, au départ, lutter contre les exclusions, sociales et professionnelles. Et c'est vrai que ce côté insertion par l'activité économique est né dans un contexte un peu particulier de chômage de masse à cette époque-là. Oui. Donc petit à petit, ce secteur a grandi et c'est un peu plus développé parce qu'il avait son sens pour répondre à ces questions d'exclusion et de pauvreté. Et l'atelier chantier d'insertion, c'est devenu un outil de ce secteur-là. Et la particularité d'un atelier chantier d'insertion, c'est qu'on est conventionné par l'État pour mener à bien notre mission d'insertion par le travail. Et que du coup, il nous donne aussi les moyens de pouvoir mener ces actions. Donc on a des aides financières pour nous permettre de réaliser l'accompagnement des personnes qu'on emploie.
L'Amirail, donc c'est une association. Quel statut ?
L'Amirail, elle est atelier et chantier d'insertion conventionné et porté par l'association Environnement et Solidarité. D'accord. Qui est une association.
Ok, donc c'est pas une association dans l'association, c'est un pan de l'association. Oui. Donc comment ça fonctionne, quel est le processus pour, humainement parlant, vers quel public, comment on va rechercher ce public en difficulté, comment ce public en difficulté de réinsertion par le travail, comment ce public arrive là ou comment allez-vous le chercher ?
Du coup, dans ce volet atelier chantier d'insertion, on a une personne qui est chargée un petit peu de ce travail-là que vous avez expliqué, qui est une accompagnatrice socio-professionnelle. Donc elle est en lien avec tous nos partenaires, donc du Conseil Général, et ce sont ses partenaires qui lui orientent des personnes susceptibles d'avoir besoin d'un poste pour pouvoir se réinsérer. Le public, je dirais, cible, c'est les bénéficiaires des minima sociaux, les chômeurs de longue durée, les jeunes de moins de 26 ans pas diplômés, les travailleurs reconnus handicapés, et ceux qui sont dans ce cadre-là et qui cumulent un petit peu des difficultés d'ordre social et professionnel.
Et à partir du moment où il y a eu un contact, comment une personne peut être amenée à travailler au sein de l'Amirail ?
Du coup, en étant orientée par les différents partenaires, quand on a des postes qui disponibles ou qui s'ouvrent au sein de la structure, on effectue un recrutement et en fonction des CV, des candidatures, il y a des entretiens qui sont réalisés avec l'accompagnatrice socio-professionnelle et un encadrant technique pour valider aussi la capacité technique d'occuper un emploi. Après, c'est des emplois qui ne demandent pas de compétences particulières, ne serait-ce que de savoir travailler en équipe. Des petites choses. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler par la suite. Et donc, suite à cet entretien, si la personne, ça lui convient aussi ce qu'on lui propose. Donc, les contrats qui sont proposés, c'est 6 mois, renouvelables une fois, exceptionnellement 3 fois. On peut aller jusqu'à 24, mais... D'accord. Souvent, on se rend compte que ça n'a pas trop d'impact sur le projet de la personne. Et pendant ces 6 mois, la personne doit aussi proposer un projet d'insertion sur lequel nous, on peut l'accompagner. C'est, voilà, c'est pas un emploi saisonnier pour une période et puis après je cherche un autre travail.
Oui,
c'est vraiment l'idée d'un parcours. Je rentre au sein de la structure avec mon emploi, mais pendant ces 6 mois, je dois travailler sur voilà, mon projet. Tout dépend de leurs difficultés. Il y en a, ils vont avoir des difficultés administratives qu'il faut qu'ils arrivent à résoudre. Le fait d'avoir un travail, un petit salaire, ça permet de, voilà, de prendre plus de temps de le faire. D'autres où c'est passé le permis. Mais voilà, elles rentrent dans un parcours. Il y a aussi ce parcours un petit peu, je dirais, professionnel au sein de la structure, où les personnes sont formées un petit peu sur leur poste de travail, où certaines doivent par exemple manipuler l'ordinateur. Et puis petit à petit aussi, voilà, un cadre au travail, savoir respecter des consignes de sécurité, écouter les consignes, appliquer, déjà avoir un rythme de travail tous les matins. Enfin voilà, il y a aussi un accompagnement, je dirais, social sur des aides. Et puis un accompagnement professionnel par l'encadrant technique sur des tâches et des domaines d'activité assez précis.
Une fille use de son charme, une autre préfère le cacher. Un homme se noie dans ses larmes, un autre n'a jamais pleuré. Il y a celle qui vaut des armes et celle qui ne le fera jamais. Des sales cons qui vendent des armes, des hommes qui cherchent la paix. Les beaux bouquets que l'on cueille, que l'on offre pour flirter. Ceux que l'on pose sur les cercueils dont on aimerait se passer. Dès l'instant où le vent s'énerve, certaines feuilles viennent à voler. Les feuilles séchées se conservent et la poussière vient s'y poser. La vie est faite de différences, avec plus ou moins de chance. Le monde est fait. Je revendique la tolérance. Un homme se parfume, son frère n'ose pas y songer. Certains s'habillent en costume, d'autres préfèrent se dénuder. Une jeune femme se présente, elle n'arrête pas de parler. Une autre à la parole absente passe des heures à l'écouter. Il y a celle qui vous aime et l'autre qui n'a jamais aimé. Les adeptes du baptême et celles qui n'ont jamais prié. Il y a les arbres isolés et ceux qui peuplent les forêts. Ceux qu'on a improvisés dans les parcs goudronnés. La vie est faite de différences, avec plus ou moins de chance. Le monde est fait de différences. Je revendique la tolérance. Il y a celui qui amorce et l'autre qui n'ira pas pêcher. Il y a les hommes qui divorcent et ceux qui ne veulent pas se marier. Il y a le chêne centenaire que l'on tue par sécurité. Notre monde a un cancer et l'homme l'a généralisé. La vie est faite de différences, avec plus ou moins de chance. Le monde est fait de différences. Je revendique la tolérance. La vie est faite de différences, avec plus ou moins de chance. Le monde est fait de différences. Je revendique la tolérance.
Nous retrouvons Karine Hague qui nous explique l'important travail qui est fait à la Mirail envers le personnel en contrat d'insertion.
Oui, puis c'est ce côté aussi leur redonner confiance. Par exemple, on travaille beaucoup sur la valorisation et le retour d'expérience qu'ils ont sur par rapport à leur emploi. Et de pouvoir dire, en fait, maintenant, oui, je sais faire ça, j'ai appris à faire ça. Et de se rendre compte qu'une activité qui paraissait pas très simple, en fait, en la décryptant, ils sont capables d'en sortir des compétences qu'ils n'avaient pas en entrant.
Oui, donc une valorisation personnelle, voilà, part de l'acquis.
Et qui peuvent transmettre après à un prochain entretien d'embauche, si on leur pose la question, mais qu'est-ce que vous savez faire ? C'est pas seulement voilà, être vendeuse, en fait, je sais renseigner le client, répondre à... Enfin, ils ont un vocabulaire, ils ont... sont un des atouts pour eux pour la, je dirais pour la suite. Alors c'est vrai qu'en plus, je dirais déjà, le support d'activité de la ressourcerie est, fait qu'il y a un travail en équipe et est indispensable, puisqu'il y a tout un circuit voilà, de l'objet. Et puis, c'est pas chacun est responsable d'un secteur. Tout le monde doit travailler ensemble, doit faire circuler l'information, doit renseigner de manière voilà, correcte, qu'on ait tous aussi le même discours.
Nouvellement, au sein de la Mirail, on va revenir un peu sur la récupération des objets, parce que moi je trouve la démarche assez sympathique. Alors est-ce que c'est une innovation de la Mirail, je vais nous dire, mais il y a ce que vous appelez les repair cafés, c'est-à-dire que le concept c'est les gens viennent avec leur objet défectueux, ils rencontrent donc des personnes qui ont des compétences techniques et qui éventuellement vont élaborer un diagnostic et... Et peut-être le réparer, donc les gens vont repartir avec. Est-ce que ça se fait par ailleurs ? Est-ce que c'est vous, quelqu'un a eu l'idée au sein de la Mirail ? Voilà, comment est née cette idée ?
Alors, pour être honnête, non, on n'a pas du tout inventé le concept hyper café. Mais on s'en est bien.
Bonjour.
Bien inspiré, c'est, ça existe depuis quelques années maintenant. Donc voilà, nous, on avait décidé d'initier ce premier hypercafé lors de la semaine européenne de la réduction des déchets en novembre pour proposer justement une action de sensibilisation. Donc voilà, on avait organisé ce premier hypercafé à ce moment-là. Et le principe, c'est ça. Après, ça dépend de d'autres fonctionnent différemment. Le principe, c'est les gens nous amènent des objets défectueux, effectivement, dont ils n'arrivent pas à comprendre l'origine de la panne, si c'est réparable, pas réparable. Et donc, on fait un diagnostic avec eux, c'est-à-dire que les personnes ne nous apportent pas, on n'est pas un service après-vente, ils ne viennent pas ici, ils le déposent et puis ils reviennent le chercher plus tard. Ils participent au diagnostic de leur matériel et éventuellement à la réparation. Donner envie aux gens de se dépatouiller un petit peu eux-mêmes, de réemployer, de réparer. Et donc là, on va initier prochainement le troisième Repair Café. Après, on fait aussi appel à des bénévoles. S'il y en a qui veulent aussi rentrer dans la démarche, c'est avec plaisir. On a toujours besoin de bricoleurs.
Niveau des salariés, c'est à la fois le personnel, il y a du personnel encadrant, j'imagine. Et donc, dans ces repair cafés, il y a donc parmi le personnel les permanents et les gens, les personnes sous contrat qui participent.
Oui, c'est exact. Du coup, il y a l'encadrant technique, pédagogique et social responsable de ce secteur d'activité qu'on appelle test électrique. Et puis, les deux salariés là, sur ces postes-là, dont un qui a des compétences plus en petits et gros électroménagers. Et puis un autre qui est plus sur, je dirais, le côté télé, hi-fi, informatique. Voilà, il y a toujours un petit peu des geeks dans ces domaines-là et qui adorent bidouiller. Donc voilà, il apporte aussi ce côté.
Et puis c'est des matériels qu'on utilise au quotidien et qui sont partie intégrante de nos vies aujourd'hui. Ouais. Au niveau dans l'organisation du travail, est-ce que chaque salarié, alors sous contrat, a une tâche précise ou est-ce qu'il peut, pendant ces 6 mois, passer d'un poste à l'autre ou est-ce que c'est vraiment bien précis ?
Pour répondre à votre question, il y a de tout.
D'accord.
Il y a des gens qui sont sur un poste parce que du coup, on en a besoin. Il y a des postes qui sont indispensables au fonctionnement même de la structure. La vente, il faut un certain nombre de personnes en vente pour pouvoir ouvrir le magasin quand il faut. Des personnes aux apports. Qui réceptionne les objets. Donc, dans chaque secteur, il y a un nombre de postes qui doivent être occupés. Après, on est à l'écoute, je dirais, des projets et des envies des salariés. Donc, on a adapté parfois des postes. Donc là, on a une personne qui est en vente, mais en fait, 2 autres jours par semaine, elle est en atelier tapisserie.
D'accord. Voilà. Suite à sa demande.
Cet atelier, en fait, au départ, n'existait pas.
D'accord.
Et du coup, en ayant un petit peu des compétences dans ce domaine-là, on a créé Pareil, il y a une autre personne qui est en vente en ce moment, dont l'objectif un petit peu, c'est de peut-être créer une ressourcerie en partenariat avec d'autres personnes sur Toulouse. D'accord. Donc une fois par semaine, si c'est possible, elle est libérée et elle fait une après-midi à l'atelier bois pour faire du relooking, voilà, pour aussi connaître un petit peu tous les...
Oui, acquérir de nouvelles compétences.
Voilà. Pour se rendre compte, bah, effectivement, la ressourcerie, c'est pas que la vente. Voilà, si on veut gérer une structure après, il faut connaître les différents ateliers, les différents... Donc, elle est libérée. Et puis après, on a ce qu'on appelle des postes polyvalents qui, en fonction de nos besoins et de l'activité, bah, qui viennent en renfort, que ce soit sur la collecte, que ce soit sur même la vente en magasin, parce que la vente en magasin, c'est beaucoup de manutention, de quelqu'un qui achète un fauteuil, il faut le porter, il faut l'aider à le charger. C'est... Donc voilà, il y a des personnes un petit peu comme ça, voilà, qu'on appelle polyvalents et qui sont sur... Et puis du coup, comme je disais, des fois c'est en fonction de la demande, voilà, du
oui,
salarié et de son projet. On peut aussi faire évoluer son poste en fonction de...
D'accord. C'est ça qui est important et que j'aime bien, enfin je vais le relever encore une fois, c'est qu'il y a quand même une démarche, qui est votre démarche est d'être à l'écoute des attentes des personnes que vous accueillez durant ces 6 mois ou plus. Quoi.
Voilà. On essaye en tout cas.
Oui, non mais c'est très bien, c'est très bien.
Vous avez quelque chose à poser ?
Des chaussures de ski.
C'est un don ?
Ouais.
Ok, je vais prendre. Hop ! Et celle. Ça me fait 3,10 € s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Je vous remercie. Merci, vous aussi.
Au revoir.
Communication is the skill you must acquire. It will help you through your life. It is essential. You have to walk into this world with your head held high. Be fluid, child, don't become crystalline. You're gonna have to swim with the molecules. How can I tell you? You have to open up your heart. How can I tell you? Honest from the very start. How I feel. Make a stand for what is true. Try to be decent in all that you do. How can I tell you? You got to give to get support. How can I tell you? A little effort and a lot more. How I feel. Check the wonder in all that you see. You got to get loving unconditionally. Have to walk that road. You're gonna bear some heavy loads. You'll make mistakes and you'll come close. You're gonna get hurt by the one you love most. You're gonna have to take some pain, accept the loss to live again. Forgive yourself and you'll be free. There's more to love than just loving, you see. How can I tell you? The laughter on a crowded bus. How can I tell you? Making space when you're being crushed. How I feel. A letter I receive from you. A hug and a kiss when you're feeling blue. How can I tell you? The last chocolate in the box. How can I tell you? A pair of mittens and some cotton socks. How I feel. I'll make a fire when you are cold. Don't worry, darling, I love you when you grow old. We'll be right back.
on your birthday cake.
How can I tell you?
A Christmas card that I helped you make.
How I feel
when you ran in your first race.
The time I stuck an ice cream in your face.
How can I tell you?
The last chocolate in the box.
How can I tell you?
A pair of mittens and some cotton socks.
How I feel.
I make a fire when you were cold.
Mon prénom c'est Aurélien, je travaille à la ressourcerie depuis le mois de janvier, donc en contrat d'insertion, pour trouver un emploi. J'ai fait une formation à l'AFPA, c'était l'année dernière, en tant que technicien vendeur en matériel de sport. Et comme c'est pour une recherche de premier emploi et qu'on a le droit à des stages, la ressourcerie pouvait m'aider dans ce domaine-là quand même. Voilà. Je m'occupe de la partie ski. Hein,
Au niveau de l'emploi, vous vous occupez uniquement des skis ?
Je ne m'occupe pas que des skis, non. Je commençais par être en collecte, donc aller chercher les meubles et chez les personnes, hein, ou même faire des livraisons. Non, là en ce moment, je suis aux apports. Donc c'est les gens qui viennent apporter leurs objets, donc on fait le tri.
Au niveau du travail ici, est-ce qu'au niveau de l'ambiance, avec les collègues et tout ça, est-ce que vous y trouvez une ambiance plus particulière dans la structure, à la Mirail ?
Eh ben, l'ambiance est une bonne ambiance entre collègues, hein, une bonne convivialité. On travaille bien en équipe aussi, hein, parce que bon, quand on va faire les collectes ou même en magasin, on est toujours quand même un esprit d'équipe. Donc non, ça se passe super bien, il n'y a pas de soucis. Ouais. Ouais, oui.
Et ça, justement, ce contact de travailler en équipe, ça vous a apporté un plus, une richesse supplémentaire
Je travaille sinon intersaison, parce que j'ai voulu quand même faire skiman pour l'hiver. Mais intersaison, moi, je travaille en maçonnerie, donc je pense que le travail d'équipe, l'esprit d'équipe est quand même assez important. Oui.
Et donc une journée ordinaire à la Mirail, pour vous, ça ressemble à quoi ?
Ah ben on voit pas le temps passer, hein, pas le temps de s'ennuyer.
Ah mais ça c'est bien ça. Ça c'est très bien, c'est bien que le travail est intéressant alors.
Le travail est super intéressant et puis ça fait plaisir aussi d'aider, hein, parce que bon, donc les déchets partent de suite en déchetterie, on fait quand même la récupération quoi, donc c'est quelque chose qui m'intéresse bien.
Ouais. Oui, ça on participer à moins de gaspillage.
Oui, un bon gaspillage.
Dans la réparation et la réutilisation.
Voilà.
Ben, bonne continuation, Aurélien, merci.
Oui, ben merci. Merci bien.
Donc là, je suis en extérieur, donc apparemment au lieu de stockage, donc plus proche de l'atelier bois. Et donc je suis avec Florent. Florent, vous êtes le responsable de l'atelier bois, je crois, à la Mirail.
Oui, on dit encadrant technique de l'atelier bois, oui.
D'accord. Voilà. Alors, à quoi ressemble une journée à la Mirail en tant qu'encadrant technique dans cet atelier ?
Eh bien, le matin, avec le personnel qui vient travailler, on regarde un petit peu les meubles qui sont arrivés la veille ou qu'on a un stock. On décide un petit peu, suivant leurs envies, leur humeur, de faire tel ou tel mobilier. En fonction aussi du magasin, des demandes qu'il peut y avoir, s'il manque des tables ou des commodes, enfin, des chaises, voilà, on s'adapte un petit peu. Et puis on récupère le meuble, on regarde ensemble avec les salariés les défauts qu'ils peuvent avoir sur le meuble, voir leurs propositions qu'ils peuvent faire pour le retaper. J'essaie de les guider un petit peu pour leur proposer la meilleure solution. Et puis la plupart du temps, je les laisse faire.
D'accord.
Parce qu'on est 3-4 dans l'atelier et je tourne au niveau des 3-4 personnes pour, pas surveiller, mais pour les aider, leur donner un coup de main s'il faut, pour poncer, pour raboter, pour tenir un objet, voilà.
D'accord, donc c'est du conseil,
j'essaie
de la pédagogie dans le sens de pour acquérir une
ouais, j'essaie de
la
pas
maîtrise des outils, des compétences.
Ouais, j'essaie de ne pas diriger, mais d'aider.
D'aider.
D'aider. D'accord. À ce qu'ils trouvent tout seuls la solution. Après, des fois, il y a des personnes qui viennent d'arriver, donc leur première semaine, c'est un petit peu de la formation. Mais il y a des contrats de 6 mois qui sont renouvelables. Donc les personnes, ça fait presque un an qu'ils sont là, donc ils sont plutôt autonomes sur la manipulation des outils, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc c'est plus facile, enfin, il y a moins besoin de surveillance et moins besoin d'aide.
D'accord. Là, à l'extérieur, là, je vois il y a énormément de biens en bois.
Ouais.
Ça a l'air d'être... c'est pas trop compliqué à gérer. Enfin, visuellement, moi, ça m'a l'air compliqué de gérer ce stock.
Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'apports ou de collectes qui arrivent. On n'a pas trop de moyens de stockage, donc on a fait ces petits abris en bois et en tôle, là. Et c'est surtout que la ressourcerie n'aime pas trop jeter, on veut revaloriser au maximum, donc on a du mal à jeter de suite. Quoi.
D'accord.
Donc on stocke au maximum, et puis quand vraiment on n'en peut plus, qu'il y a trop de choses, on fait un tri, on enlève les objets les plus abîmés ou qui ne peuvent plus se réparer, malheureusement. Ouais. Mmh. Tout ce qui est en bois massif, ça peut faire, mais après avec les bois mélaminés ou contrecollés, dès que ça prend l'eau, ça s'abîme.
Ouais, ouais.
Et là, il n'y a plus grand-chose à faire. Ouais.
Est-ce que globalement, avec les personnes qui sont salariées, qui viennent là en contrat, est-ce que globalement ça se passe bien ou est-ce que parfois il y a des difficultés, humainement parlant, je veux dire ?
Ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Après, c'est comme dans toute entreprise, on ne peut pas forcément être en forme tous les jours et s'entendre avec ses collègues de travail tout le temps. Il peut y avoir des petites tensions, mais rien de bien inquiétant. Et puis, oui, des fois, il y a du personnel qui ne peut pas être trop multitâche, donc il faut faire attention de ne pas les envahir par les informations et de ne pas vraiment leur donner qu'une tâche à la fois, sinon ils ont du mal à revenir, c'est ce qu'ils faisaient avant. Ouais. Ils ont envie de perturber.
D'accord.
Et ils oublient ce qu'on leur avait demandé au début. Ouais.
Globalement, l'ambiance il y a une attention particulière pour que l'ambiance soit...
Il faut que l'ambiance soit bonne au travail, forcément. Ouais.
Oui,
mais il n'y a pas... Il n'y a pas de conflit majeur, même des conflits mineurs. De temps en temps, il y a un petit regard comme ça. Toi, tu fais du bruit, tu fais trop de poussière, tu peux aller travailler dehors, ça serait mieux. Mais non, c'est la bonne humeur. Ouais.
D'accord. Est-ce que, après je vous laisse travailler, mais on peut faire un tour de l'atelier pour expliquer un peu ce qu'on y trouve ?
Donc là, c'est un petit peu le bazar ce vendredi. Là, on va bientôt ranger. Mais généralement, on est 3-4 à travailler dans l'atelier. Il y a plusieurs postes de travail. Hein.
D'accord.
Ouais. Ici, ce poste-là, c'est plutôt tout ce qui va être ponçage et sillage, parce qu'on a un aspirateur qui est relié aux machines, pour éviter qu'il y ait de la poussière dans l'atelier. Voilà. Après, il y a trois ateliers bien distincts, là, comme ça, chacun a son poste de travail. Et suivant ce qu'il doit faire, il se déplace avec son objet au poste de sillage ou de ponçage pour travailler. Après, il retourne à sa place.
D'accord.
Voilà.
Il y a un peu des outils.
On a pas mal d'outils électroportatifs. Hein. Là, on a une grande scie radiale pour couper des équerres, des planches. On a le perceuse à colonne, tout ce qui est électroportatif de base, des ponceuses, des visseuses, des scie sauteuses, des rabots. Enfin, ouais. Voilà.
D'accord. Et donc là, vous êtes combien de personnes ?
Là, on arrive à être 4 personnes dans l'atelier. Ouais.
D'accord.
Ouais. Faut pas être plus.
Oui, parce qu'après,
Ça fait trop de personnes et c'est là que ça peut créer un petit peu des tensions quand on est trop nombreux. Ouais. Voilà, et puis on retape les objets, une fois qu'ils sont retapés, comme cette armoire, on a monté là. On fait un petit collage avec les dimensions, la personne qui l'a retapé, ce qu'on a fait sur le meuble.
D'accord.
Et puis il va partir en zone tampon, c'est une zone qui fait l'intermédiaire entre l'atelier et le magasin.
D'accord, donc il y a encore...
Une petite zone où on stocke le mobilier qui est prêt à vendre. Voilà. Et après le personnel vient le prendre dans cette zone pour l'amener au magasin.
Donc un petit référencement par le biais d'une étiquette.
Voilà, pour savoir l'objet, le numéro, parce qu'il y a un suivi dans les objets qu'on vend ici, là, qu'on retape. Et puis les dimensions et la description de l'objet. Ouais.
Merci, bonne continuation.
Rien. Merci à vous aussi.
Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez trouver ici à l'Amirail ? Pourquoi vous venez ?
Et bien, parce qu'on trouve énormément de matériel que l'on ne retrouve pas ailleurs. Plutôt du vieux, des vieux meubles, des vieux accessoires. Donc voilà.
Par amour du vieux ou par nécessité ?
Non, un peu des deux, ça dépend pourquoi, mais un peu des deux. Après, il y a comme l'électroménager qui coûte très cher et qui dure très peu de temps. Ici, on arrive à trouver des frigos, des cuisinières pour très peu et qui durent tout autant que le reste. Donc,
Oui, donc c'est pour faire des économies aussi.
Oui, bien sûr.
Parce que vous avez un petit budget, je vois que vous avez un petit bébé.
Voilà, exactement, petit budget. Et voilà, on essaie de s'en sortir comme on peut. Quoi.
D'accord, très bien. Merci. Votre prénom ?
Julien.
Merci, Julien.
Avec plaisir.
Bonne course.
Merci.
nous sommes le 26 mars et me voilà de retour à la Miraille pour le Reaper Café. Le Reaper Café, en fait, c'est une journée organisée par la Miraille où les personnes qui ont des appareils défectueux peuvent venir et proposer et demander à ce qu'on diagnostique la panne et qu'on puisse le réparer. L'intérêt de la chose et surtout la volonté de la part de la Miraille, c'est de faire participer les personnes qui apportent leur objet et d'acquérir de nouvelles compétences en matière de réparation. Donc moi, j'ai un petit soufflant de salle de bain qui est défectueux. Il ne fait plus d'air chaud, ce qui est bien dommageable pour l'hiver. Je vais donc entrer et voir la personne qui va me diagnostiquer la panne et j'espère que je vais pouvoir repartir avec.
En fait, lui, il fait quoi il...
Alors lui, il a un souci, il souffle plus que du froid. D'accord. Il n'y a plus de chaud.
Okay.
Voilà, donc c'est dommage parce qu'il est, il est encore neuf. Donc vous, c'est Kevin ?
C'est ça.
Et vous êtes spécifiquement affecté aux réparations électriques à la Miraille ?
Oui.
Et il y a eu du monde aujourd'hui à ce Reaper Café ?
Oui, il y a eu 5 personnes à peu près.
Et comment on pourrait dire, c'est la 3e édition ?
C'est ça.
Par rapport aux deux précédentes, il y a eu plus de fréquentation, plus de monde ?
Alors moi, j'en ai fait qu'une. Et ouais, la dernière fois, il y a eu pas mal de monde.
Donc là, un coup de testeur.
C'est ça.
Ah, pour voir, d'accord.
Si le courant passe.
Donc là, le bip qu'on entend...
C'est le testeur qui dit si le courant passe ou pas.
Là, il y a un souci.
Ça passe pas.
Donc là, ça veut dire quoi? Que la résistance est défectueuse?
Si je fais un pont et que ça chauffe, oui, c'est, ça, c'est la résistance qui est défectueuse.
Faire un pont, ça consiste à...
On met un fil... ici.
D'accord, d'un point.
Pour dévier le courant jusqu'ici, sans passer par la résistance en fait.
Et vous avez une formation d'électricien ?
J'ai fait un bac pro en électronique.
Ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes affecté à cet atelier.
C'est ça.
Particulièrement. Et donc électronique, ça veut dire tout type d'appareil ou il y a une limite ?
Non, bah, y a pas de limite. Je vais des machines à laver jusqu'aux petits appareils. Quoi.
Donc là vous préparez donc, un bout de fil électrique en dénudant une partie, donc pour faire le fameux pont.
Et ça marche.
Et ça marche. Voilà, avec un peu de connaissance, et j'ai appris quelque chose aussi. Du fait de, que cette résistance ne soit défectueuse et qu'en faisant ce pont, ça la chante, il n'y a pas de risque à utiliser l'appareil ?
Si, parce que c'est une résistance de sécurité en fait. Si l'appareil chauffe trop, elle se met en sécurité et ça arrête l'appareil. Si
en faisant ça, il n'y aura plus cette sécurité.
Voilà, si je le mets en direct, il tombera tout le temps.
Donc ça devient un appareil à surveiller.
Je crois que c'est le troisième, en trois Reaper Café, c'est le troisième chauffage qui a exactement le même problème.
C'est ça.
Et est-ce que on pourrait retrouver une résistance comme celle-ci et la changer ? Est-ce qu'on trouve dans le commerce ?
Ouais.
Auprès, j'imagine, de fournisseurs spécialisés.
Bah, sur Internet, il y a beaucoup de sites Internet de pièces détachées. Donc après, ouais, ça se trouve. Ouais. Mais ouais, ça, c'est le genre de choses. On voit bien que les constructeurs ne veulent pas qu'on y touche.
C'est riveté, donc c'est difficile à,
bah ouais,
à démonter et à remplacer.
Voilà.
En fait, on peut parler d'obsolescence programmée.
Ah, mais ça, exactement. Mais complètement.
Là, on y est dedans, là.
Bah, surtout que ça fait... Ouais. En trois fois le même appareil, on a trois fois exactement la même panne.
Oui.
Au même endroit, sur un truc difficilement démontable, qui pourtant coûte 30 centimes.
Donc là, on est vraiment dans un cas de figure qui prouve qu'il y a quand même une réflexion de la part des constructeurs pour que les appareils durent un certain temps et que les défaillances...
ne soient pas facilement réparables. Parce que la même chose, s'il était là, avec un petit clapet et facilement démontable, qui grille, on le rachète et puis on le remplace. N'importe qui peut faire ça, quoi. On a eu le cas ce matin d'un truc encore plus pervers, là. Sur un aspirateur, un composant qui va arriver à griller si on ne met pas les bons sacs d'aspirateur. Et donc là, ça fait 2 heures qu'on est en réflexion pour savoir comment chanter cette sécurité. Quoi. Parce que nous, on sert beaucoup d'Internet pour faire nos réparations, pour trouver les astuces.
D'accord.
Et après, celles qu'on trouve, on essaie soit de les remettre sur les forums, soit de... Voilà, le projet, ça serait de faire des petites vidéos. Quoi.
Qui seraient sur le site de lamiraille.org.
Sur le site de la Miraille ou sur une chaîne YouTube.
Très bien, joli projet.
Ben ouais.
J'espère que vous trouverez le temps de
le
concrétiser. Bon, mais voilà, on a réparé, on a trouvé, on a trouvé la cause.
Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est votre problème ?
Moi, j'en ai pas.
Ah, pas très.
on n'a pas les prix des ensembles, la colonne, le lit, machin, c'est 50 l'ensemble. Mais...
C'est 20 euros le placard horizontal, 15 euros la colonne, et les lits étaient à 20 euros avec le sommier.
Ça marche, merci.
Et juste, juste un mot par rapport au Repair Café d'aujourd'hui. Il y a eu moins de monde aujourd'hui.
Ouais, beaucoup moins de monde. Après, on a un petit peu moins communiqué sur celui-ci. Mais voilà, il y a un peu du monde. Et comme ça, on a le temps de vraiment prendre le temps sur des appareils et de vraiment creuser, chercher.
Et les gens s'intéressent vraiment? Ils viennent, viennent avec un appareil, ils cherchent à...
Ça dépend. Il y en a, même si c'est pas dans l'esprit, bon, on leur dit rien, mais ils posent l'appareil, ils font « Ouais, bah, j'y vais, je vais faire un tour au magasin et tout. » Bon, voilà, on dit rien. Mais on préfère quand la personne vient là pour s'intéresser, pour vraiment mettre les mains dedans, voir vraiment le fonctionnement de l'appareil, comme,
oui, c'est ça.
Comme là. Enfin, moi, je trouve ça intéressant et,
bien sûr.
Et formateur.
Oui. Est-ce que vous revoyez, vous avez revu du monde, qui était déjà, des personnes qui étaient déjà venues?
Non.
Non.
Non, non, c'est tout le temps des nouvelles personnes.
Des nouvelles personnes.
Ouais. En fait, au niveau personne, on est un petit peu moins de monde, et c'est surtout qu'on a limité le nombre d'objets par personne. La dernière fois, on s'était fait vraiment submerger. On était trois et on n'a pas pris de pause de la journée. Le soir, c'était... Pfff. C'était mort et les gens arrivaient avec des sacs d'objets.
Pensant qu'il y aurait une armada de techniciens.
C'est ça. Du coup, aujourd'hui, on était que deux, donc c'est plutôt pas mal, on a passé du temps. Par contre, tout, voilà, on n'a pas pu réparer parce que, surtout, les objets qu'on nous amène, c'est de la dope, quoi. C'est des fabrications qui interdisent la réparation. Un exemple, on est obligé de fabriquer des outils pour démonter les appareils. Ouais, des choses comme ça, il fallait un petit trou pile du diamètre, du coup on prend un vieux tournevis, on soude un embout dessus.
D'accord. Donc il y a vraiment, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une réflexion de la part des constructeurs pour interdire l'intervention domestique.
Totalement.
Dernière question, après je vous laisse repartir au boulot parce qu'il y a beaucoup de monde. Le prochain Repair Café, c'est quand?
On ne sait pas encore.
On ne sait pas encore.
Je pense que ça sera au mois de mai. On avait pour ambition d'en faire tous les mois, mais en fait, on n'y arrive pas. Du coup, tous les deux mois, ça me semble un rythme qui est mieux pour le moment.
Bah, merci Loïc.
De rien. Au prochain appareil,
Okay. Toi
à réparer.
Bah, du coup, merci Kevin, parce que tu m'as fait apprendre une chose nouvelle. Donc, j'ai appris d'où venait la panne, je l'ai visualisé. Et voilà, mon appareil va pouvoir à nouveau fonctionner, je vais pouvoir à nouveau m'en servir avec la précaution d'y faire attention puisqu'il y a une modification qui a été faite et il faut donc il y a plus de sécurité.
Voilà. Bien. Il n'y a pas de souci, hein. Merci à vous.
Eh bien merci, bonne continuation.
Merci.
Au revoir.
Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou.
Boîte à outils, boîte à outils.
Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
Boîte à outils, boîte à outils.
Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé.
Boîte à outils, boîte à outils.
Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
Boîte à outils, boîte à outils.
À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin.
Boîte à outils, boîte à outils.
Mais dans ses calculs, il se trompe et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un grand verre d'électricité. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
Boîte à outils, boîte à outils.
Comme il redoute que des canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal.
Boîte à outils.
C'est commode, je vous jure.
Boîte à outils.
Et souvent la nuit, je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin, mais ce n'est qu'un vilain requin. Mon Dieu, quel malheur, mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel malheur, mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur.
Bonjour messieurs, dames, j'ai vu que vous aviez apporté des objets. Vous venez là dans quel but? Pourquoi vous venez à la Miraille?
Ben nous, on a été informés de l'existence de la Miraille quand on est arrivé dans la région, il y a 3 ans. Et puis, on est venu parce que ça fait un peu, comment je vais dire, île au trésor. Et puis, en même temps, ça permet aussi, de lorsqu'on a des choses qui sont récupérables, de les amener. Quoi. Donc, tout le monde y trouve son compte. Donc ici, en plus, on sait que ça permet de remettre dans le bain un peu à la façon d'Emmaüs, hein, c'est un peu la même philosophie, des gens qui sont
en perdition, donc
un peu sortis du système, Et puis,
donc, on aime bien se balader dans ce genre de lieu.
Oui, c'est pour votre plaisir, vous venez essayer aussi, chiner. D'accord.
Voilà.
J'aime bien regarder les bouquins surtout.
Je trouve une entreprise philanthropique, philosophique, enfin il y a tout qui mérite vraiment qu'on la fréquente et qu'on l'aide d'une façon ou d'une autre, soit en achetant.
Je peux vous demander vos prénoms?
Bernard.
Catherine.
Ben, merci à vous.
Bah, de rien.
Bon, bonne quête, bonne chasse au trésor.
Ben, espérons.
Allez, merci.
Merci.
Donc là, pour finir ce reportage, je suis avec Myrène Kerbrat, qui est la directrice de la structure, l'association Environnement et Solidarité. Bonjour Myrène.
Bonjour.
Donc j'ai tenu à vous rencontrer pour un peu conclure ce reportage sur l'atelier chantier d'insertion de la Miraille. Et donc j'avais envie de vous poser la première question. Est-ce qu'il y a au sein de la Miraille de nouveaux projets en lien avec l'insertion?
Alors, à la Miraille, comme au sein de l'association Environnement et Solidarité, on n'est pas dans une optique aujourd'hui de développer un troisième chantier, puisque vous savez qu'on a déjà 2 chantiers, la Miraille plus un autre qui s'occupe de valorisation des territoires de montagne, de travaux dans les espaces naturels.
Non, je ne savais pas.
Voilà.
Merci.
Et donc, on n'est pas dans l'optique d'en développer un troisième. Il faut savoir qu'ouvrir un chantier d'insertion, le mettre en place, c'est une démarche très lourde. Et on n'a pas fini, en fait, de développer toutes les potentialités qui viendraient au plein épanouissement, si j'ose dire, de la Miraille. Hein. On touche de nouveaux publics. On accompagne de mieux en mieux les salariés polyvalents dans leur démarche d'insertion. Donc on a encore de grosses marges de ce côté-là et on n'est pas dans un nouveau projet.
D'accord, vous êtes dans le parfaire.
Exactement. Notre association en tant que CPIE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, est dans une démarche de progrès constante. On s'est défini encore récemment, cette année pour les 3 ans à venir par exemple, un plan d'action sur notre démarche de progrès qui vise à toujours mieux accompagner, à se professionnaliser, à être plus efficace, toujours mieux accueillir, par exemple, tout ce qui va faire que notre chantier va être un vrai lieu de resocialisation, voire de socialisation, et que soit un lieu humain, accueillant, tout en restant dans notre démarche de développement durable, le côté social à travers cette insertion, le côté économique, puisqu'on est dans une structure qui a besoin de pérennité, et le côté, évidemment, environnemental, qui est notre support, en fait, de travail.
Donc là, vous avez un peu répondu à ma prochaine question, mais je vais quand même vous la poser, à savoir si au sein de l'association, au sein des dirigeants, du conseil d'administration, savoir s'il y avait une volonté ou une envie de se diriger plus vers le volet insertion, c'est-à-dire d'aller plus vers un public, je vais appeler défavorisé, ou est-ce que le côté, ce que vous avez expliqué juste avant, le côté donc environnemental, social et économique, sont vraiment 3 volets complètement indissociables de la démarche.
L'enjeu social, l'objet social de notre association, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, on est vraiment dans une démarche de développement durable du territoire. Et les 3 piliers du développement durable sont absolument indissociables. On peut pas développer, on peut essayer de le faire mieux, le volet insertion, mais l'environnement et le modèle économique sont nos supports d'insertion. On ne peut pas les enlever, les supports, sinon ça tombe.
Et du coup, c'est très bien. Je vous avais bien répondu à mes attentes.
Voilà, je vous remercie d'avoir posé ces questions-là. Ça t'intéressait à notre structure.
Ouais, bah, en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir accueilli.
Notre association est ouverte, comme toute association. Donc j'invite quiconque s'intéresse à nos activités à venir nous rencontrer, à s'intéresser à ce qu'on fait.
Bon, en tout cas, je vous remercie. Une bonne fin de journée.
Merci.
Voilà, ce reportage est terminé, je vous remercie pour votre écoute. Avant de rendre l'antenne, je tiens à remercier encore toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions. Donc merci à Karine Hag, coordinatrice de l'atelier chantier d'insertion à la ressourcerie La Miraille. Merci à Myrène Kerbrat, directrice de l'association Environnement et Solidarité qui porte cet atelier. Merci à Florent et à Loïc, tous deux encadrants techniques. Et merci aussi à Aurélien et Kevin, actuellement en contrat d'insertion, à qui je souhaite plein de bonnes choses pour leur avenir. Les enregistrements ont été effectués entre le 18 et le 26 mars 2016. La programmation musicale nous a permis d'écouter La Mordue avec le titre Les Différences, Madness avec How Can I Tell You, un extrait de Claude Jeannet et son atelier jazz en live le 19 mars 2016 à Baratier, et enfin Patachou avec Le Bricoleur. Ne quittez pas l'antenne de Radio Diwa car nos programmes continuent. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau reportage et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut !